Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Deuxième heure de Soundtrack et encore un bon dimanche à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi Classique 21. Ce sont les Eagles ici qu'on retrouvait en 1979 avec Heartache Tonight, et pour cause, puisque on va dédier une séquence ce matin, je vous l'avais déjà expliqué, à Glenn Frey, puisque cela fait 10 ans que Glenn Frey, donc cet ancien membre fondateur des Eagles, est décédé. Et c'est avec Dominique Raguieb que l'on va parler de tout cela. Bonjour Dominique.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Alors effectivement, Glenn Frey, c'est
d'abord une voix, un sourire marié à l'image, c'est vrai, un petit peu stéréotypée de la West Coast. Mais derrière cette image solaire se cache vraiment l'un des piliers des Eagles, un groupe où l'harmonie vocale cohabite depuis toujours, avec tout de même, on peut le dire, les tensions les plus électriques. Et 10 ans après sa disparition, eh bien, son héritage, à mon avis, reste immense. Alors on vient d'entendre ici Heartache Tonight sur l'album The Long Run, publié en 79, vous l'avez dit. Sixième album du groupe. Et sur ce titre, c'est avant tout un travail d'équipe qui est impressionnant. Outre le fait que ce soit Glenn Frey qui est le lead vocal, à ses côtés, à l'écriture et à la composition, on y retrouve quand même et toujours le batteur Don Henley, J.D. Souther qui est un petit peu le membre non officiel des Eagles, et puis surtout Bob Seger. La chanson par ailleurs est née sur les fondations qu'avait posées Bob Seger. Alors il paraît qu'au départ il avait le refrain, mais il ne parvenait pas vraiment à développer cette idée. Il ramait, comme on dit, depuis des jours et des jours, et il s'entretenait régulièrement au téléphone avec Glenn Frey et les autres pour arriver au bout du truc. Et puis, le point de bascule s'est produit avec vraiment l'arrivée de Glenn Frey qui a apporté sa touche. Alors lui, il avait le début du couplet, « Somebody's gotta hurt someone before the night is through ». Et il a chanté ça en arrivant dans la pièce où ils s'étaient tous réunis. Et 5 minutes plus tard, avec cette idée qu'ils allaient peut-être passer toute la nuit à bosser, il a sorti « There is gonna be a heartache tonight ». Ils se sont regardés et voilà, étincelle mutuelle dans les yeux. Et quelques jours plus tard, eh bien, ce hit était en boîte.
Oui, et donc Glenn Frey qui, au départ, lui, je pense qu'il n'était pas natif de la West Coast. C'est quelqu'un qui vient plutôt de Floride, tout comme Don Henley d'ailleurs.
Oui. Et d'ailleurs, Glenn n'est effectivement pas originaire de Los Angeles, mais bien des chefs-lieux de la soul, Detroit. Il a grandi dans cette ville industrielle avant d'être repéré, on vient d'en parler, par Bob Seger, et qui devient alors en quelque sorte son parrain. Glenn jouait depuis déjà un bon bout de temps dans différentes formations rock, et Frey alors avait à peine 19 ans, et bon, il avait vraiment le rock dans les veines, et Bob Seger l'a vraiment convaincu de tout lâcher et de partir sur la côte ouest. Et c'est là, en 1970, dans ce Los Angeles devenu un petit peu un laboratoire où le folk se branche sur le rock, où les ballades rencontrent la country, que Frey s'est lié d'amitié avec Don Henley, le batteur. Ils ont même été à un moment donné presque engagés, en tout cas pour accompagner Linda Ronstadt. L'affaire n'a pas été tout à fait jusqu'au bout. Je crois qu'ils ont joué qu'une seule fois pour un concert qui s'est donné à Disneyland. Et donc, de fait, ils ont fondé les Eagles. Frey, qui va vite prendre le rôle central, co-compositeur, chanteur, guitariste, rythmique, et il devient l'un des maîtres d'œuvre de ce son country rock qui va définir en quelque sorte, je dirais, cette décennie. Alors, ce que Frey apporte au groupe, c'est, la chanson claire, et efficace. Quand Henley tend plutôt vers l'introspection sombre, lui, Frey, il apporte cette mélodie lumineuse, simple en apparence, mais terriblement solide. À cela, on ajoute évidemment cette voix pleine de maîtrise et de nuances, et ça donne des classiques tels Take It Easy, coécrit avec Jackson Brown.
Oui, c'est Frey Jackson qui Brown, et en plus, Don Henley a vécu au début qu'il était arrivé à Los Angeles, il habitait au-dessus de chez Jackson Brown, et c'est en écoutant Jackson Brown qu'il a appris à écrire une bonne chanson. C'est-à-dire que Jackson Brown se levait tous les matins à 9h, et donc Glenn Frey entendait la bouilloire qui fonctionnait pour dire qu'il était en train de se faire du café. Et dès que son café était fait, il se mettait au piano, et quand il trouvait une idée, il la jouait 20 fois d'affilée. Et puis, à chaque fois qu'une idée arrivait, c'était le même processus, et c'est en tout cas ce qu'explique Glenn Frey dans un fameux documentaire sur les Eagles qui est sorti il y a quelques années.
Oui, c'est bien de revenir sur cette idée de processus, parce que et en plus, c'est vrai, la voix souriante, mais toujours très ferme de Frey. On pense à des titres comme Already Gone, Peaceful, Easy Feeling, ou ce Leaning Eyes sur One of These Nights, avec là ce mélange de guitare acoustique, de pedal steel et rock californien. Sans lui, les Eagles n'auraient peut-être jamais trouvé cet équilibre. On parlait de processus, mais il faut arriver à cet équilibre entre cette fausse décontraction. Enfin, c'est ce que je trouve toujours chez les Eagles. Il y a cette décontraction et en même temps, il y a une extrême précision dans la composition et dans l'interprétation.
Oui. Et nous, on va écouter ce fameux Lying Eyes.
Old man, and she won't have Realize there ain't no way to hide your lying eyes.
Blinding Eyes à l'instant, donc là c'était en 1975 et donc évidemment on va pas revenir sur la popularité de ce morceau hein, puisque ça fait partie de la légende. Alors tout à l'heure en commençant la séquence, vous évoquiez aussi les tensions parce que là, avec le morceau Hard Day's Night, là on était déjà en 79, c'était la fin déjà des Eagles à ce moment-là, mais des tensions qui étaient surtout très très vives entre Glenn Frey et Don Felder.
Oui, alors si on parle d'harmonie vocale un petit peu à la Beach Boys, derrière ces harmonies, il y a la réalité du groupe, hein, des tensions créatives, des égos forts, des directions musicales qui s'éloignent petit à petit et déjà des Hotel California, hein, les choses deviennent vraiment plus sombres. Frey à ce moment-là défend l'efficacité, Henley lui pousse plutôt vers des œuvres un peu plus ambitieuses avec des grosses orchestrations quasi cinématographiques et puis il veut même parfois ajouter une dimension politique avec des textes engagés. À tout cela, ben, s'ajoute l'alcool, la drogue et les tournées incessantes. Et le tout réuni ne fait qu'amplifier les fissures. La relation entre Frey et le guitariste Don Felder explose très régulièrement hein, en studio. Il règne souvent une espèce de rapport de force permanent et difficilement supportable. Et puis, tout vole en éclats le 31 juillet 1980 à Long Beach, après un concert caritatif pour les bonnes œuvres de monsieur le sénateur Alan Cranston, durant lequel les deux musiciens se sont jetés des regards assassins. Don Felder lance à Frey « I can't wait to kick your ass ». Clap de fin, un événement célèbre, hein, repris dans la culture rock sous la dénomination de Long Night at Wrong Beach. Frey et Henley qui, à ce moment-là, partent chacun de leur côté et c'est là que Glenn Frey va ouvrir sa deuxième vie musicale quelque part.
Ouais, deuxième vie musicale avec un single qui a cartonné en 1984. C'est le single de Hit Is On que l'on va écouter.
And the beat.
The Hit Is On, 1984. Donc ça, c'est le début de la carrière solo de Glenn Frey. Ça a été un tube intergalactique, j'ai envie de dire. Et pour cause, puisque ce morceau se retrouvait aussi dans la bande originale du film Le Flic de Beverly Hills.
Oui, à ce moment-là, bien c'est un Eddie Murphy au sommet de sa gloire de stand-upper, une comédie avec une bande-son taillée pour la génération MTV. D'ailleurs, le clip a utilisé les images du film. C'était la première fois qu'on faisait ça. Une arme de promotion massive, j'allais dire redoutable, avec ce titre chanté par Glenn Frey, The Hit Is On, mais avec un son dans son traitement bien loin des productions country rock des Eagles. C'est vrai que Glenn Frey, il a quitté les Eagles en 1980. Et sa carrière solo s'inscrit à ce moment-là dans les années 80, dans une décennie qui lui convient assez bien au fond. On pourrait croire qu'il allait se perdre, mais avec ses sons plus urbains, plus électroniques, plus pop, il va véritablement les harmoniser, il va vraiment les dompter en quelque sorte. Frey qui utilise un groove plus marqué avec des synthés discrets, une écriture toujours très très précise, comme ce Hit Is On qu'on vient d'entendre, et qui d'ailleurs n'est pas de lui. C'est Harold Faltermeyer qui est le compositeur, donc c'est celui qui a fait la bande-son de Beverly Hills Cop, donc notamment le fameux thème repris par la petite grenouille. Axel F. Et au départ, Glenn Frey ne voulait pas enregistrer cette chanson parce qu'il la trouvait vraiment trop éloignée de son univers. Et en fait, ce qui l'a convaincu, c'est lors de la projection privée du film, et qui n'avait pas encore de bande-son. Et il a adoré en fait le film, il a adoré le jeu d'Eddie Murphy. Mais surtout dans la salle, à côté de lui, il y avait Stevie Wonder, Quincy Jones, Don Was et quelques autres stars de la soul. Alors il s'est dit, si tous ces stars sont réunis, j'ai adoré le film, pourquoi ne pas prendre le train qui est en train de démarrer. C'est vrai que Frey a toujours eu un rapport particulier avec Hollywood. Son single illustre aussi la bande originale de Beverly Hills Cop qu'on vient d'entendre. Mais l'un des autres cartons, ça a été le morceau We Belong to the City, écrite pour la série Miami Vice.
Oui, dans laquelle il a joué.
Exactement, il apparaît en guest. D'ailleurs, ce même titre s'est classé très très haut dans les charts. Il devient à ce moment-là un peu un des symboles de cette nouvelle bande-son des années 80. Pendant que Henley, lui, de son côté, écrit Boys of the Summer. Autre tube. C'est vrai que Frey a réussi finalement à cet exercice d'une pop sophistiquée, visuelle et très cinématographique au fond. C'est vrai que le cinéma ne l'a pas seulement servi du tri musical. Frey a joué aussi beaucoup sur son image. On l'a vu dans des films, dans des séries. Et puis il a vraiment participé à cette culture de la télévision américaine. Il s'est construit une identité propre bien éloignée des Eagles. Mais quelque part, la séparation avec le groupe ne pouvait pas durer éternellement.
Voilà.
Le côté boîte à rythme, le glamour des années 80, ont tout d'un coup disparu à la fin de ces 80s, pour laisser la place à quelque chose d'un peu plus nostalgique au début des années 90. Retour du rock avec le grunge, entre autres.
Ouais.
Et puis, 1994, les Eagles se reforment, un événement inimaginable.
Entre la séparation et la reformation en 94, Don Henley et lui sont véritablement les deux seuls membres qui ont véritablement bien tiré le épingle du jeu. Parce que Joe Walsh avait traversé une période très difficile avec l'alcool et la drogue. Il avait même expliqué, je crois, un jour, cité que il avait sniffé l'équivalent de la neige de l'Himalaya, ce qui n'est pas peu dire. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est par après la reformation. Bon, il y a encore eu quelques difficultés avec Don Felder. Et puis là, c'était reparti par la suite. Et je pense aujourd'hui, c'est son fils qui le remplace encore dans les Eagles aujourd'hui.
Oui, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu cette reprise des Eagles. Il y avait ce titre ironique, Hell Freeze Over. Référence à cette phrase qu'elle les répétait sans cesse, les Eagles se reformeront quand l'enfer gèlera.
Quand en enfer,
Bon, c'est vrai que ce fut une tournée excessivement lucrative, quand même.
Tout à fait.
Bon, mais c'est vrai que 10 ans après que Glenn Frey nous ait laissé son répertoire, et il y a aussi derrière tout ça un héritage colossal. Je dirais même un héritage multiple, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que, d'abord, musicalement parlant, parce qu'il a donné sa touche à un genre musical. Qui a inspiré bon nombre de nouvelles générations, même des gens comme Tom Petty, ou on pense aux Counting Crows, à Chris Stapleton, ou encore Wilco, qui se sont inspirés du travail de Glenn Frey. Puis Glenn Frey, c'est aussi, pour moi en tout cas, une certaine image de cette Amérique entre folk country et le rock FM. Une musique qui donne toujours envie de rouler sur les highways. Et d'ailleurs, autre titre figurant sur la BO d'un film culte, qui est une sorte de road movie et qui est tiré de l'album solo de 1991 de Glenn Frey avant bon, son retour au sein des Eagles. C'est un morceau que l'on retrouve sur la bande-son d'un film qui est devenu culte, de Ridley Scott, où on retrouve un tout jeune acteur qui est devenu une star. Il a un petit rôle, un certain Brad dedans, oui.
Brad Pitt.
Ouais. À côté, il y a deux femmes qui prennent leur envol à bord d'une voiture.
Ah, ben c'est Thelma et Louise.
Eh bien, la bande-son s'ouvre avec ce titre de Glenn Frey, que vous propose d'écouter pour boucler cette petite parenthèse à propos de la carrière de Glenn Frey.
Eh bien, écoutez, juste au moment où on démarre le morceau, j'en profite pour vous remercier et vous souhaiter un bon dimanche.
Bon dimanche, Laurent.
Darling, there is something
of me, part of you, qui vient donc clore cette séquence spéciale ce matin ici qu'on a partagé avec Dominique Raguet pour les 10 ans de la disparition de Glenn Frey.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.